Un des matchs importants qu'on surveillait cet après-midi dans la NFL, les Packers de Green Bay contre les Vikings du Minnesota. D'abord, bon match parce que les Packers avaient 4 victoires, 1 défaite avant le match d'aujourd'hui. Les Vikings, 3 victoires, 2 défaites. Et ce sont évidemment deux rivaux de la même région géographiquement parlant. Sauf que le match a quasiment pris fin dès le début pour les Packers avec la blessure subie par Aaron Rodgers. Blessure à une épaule, il n'est pas revenu au jeu. Et il reste 4 minutes à faire au quatrième quart. Les Vikings sont en avance 23 à 10. Je vous mentionne qu'au baseball junior, la finale de la LBJEQ s'est terminée enfin et hier avec la victoire dans le match numéro 7 de la grande finale du Royal de Repentigny, 2-0 sur les Diamants de Québec. Donc le Royal de Repentigny qui remporte un deuxième titre des séries consécutives. Bravo Royal, bravo aux Diamants également pour une belle saison. Mais là, on va parler du baseball des grands avec Alex Agostino qui rejoint au bout du fil. Salut Alex!
Salut Pierre.
Alex, ça fait 3 semaines que je veux te parler de ça, puis là je vais commencer avec le sujet parce que on pourra pas en parler rendu au mois de décembre. Il y a à peu près 3 semaines, un mois, un triste incident du côté du Yankee Stadium. Todd Frazier des Yankees a frappé une balle fausse dans les gradins qui a touché une jeune fille, une enfant, une fillette de 3-4 ans, si je ne me trompe pas, au visage. Elle a été évidemment blessée, transportée à l'hôpital. Et ça a remis en question l'aspect sécurité dans les stades. Si vous êtes de la région de Québec, si vous êtes allé au stade de Canac, le domicile des capitales de Québec, il y a des filets qui sont assez nombreux et qui sont assez présents pour protéger la plupart des spectateurs. Mais à un moment donné, Alex, on ne peut pas protéger tout le monde non plus, hein?
Ça va être très difficile de protéger tout le monde. Évidemment, ça ne fait pas juste à cause de cet incident-là. Il y en a à presque toutes les parties.
Exact.
Que ce soit un bâton, que ce soit une balle fausse. Tu sais jamais ce qui peut arriver parce qu'une game de baseball, 30, 40, 50 000 à des moments... Tu regardes pas la partie comme une partie d'hockey, un exemple, où tu es rivé sur ton siège,
ouais.
Tu parles à personne, le monde jase, de temps en temps, tu regardes à gauche, tu arrives avec ta bière, ton hot dog. Mais le baseball majeur et leurs équipes se doivent d'améliorer cette situation-là parce que ils pensent toujours à leurs partisans. Leurs partisans, c'est important que la sécurité soit là. Évidemment, tous les stades sont pas faits de la même façon. Alors, tu peux pas te dire, OK, tout le monde doit faire ça. Mais il y a déjà des équipes qui ont commencé, dont les Phillies dans nos ligues mineures, à mettre un petit peu plus de filets protecteurs devant eux. Puis des fois, c'est les partisans même qui ont ces billets-là qui ne veulent pas être cachés. Mais, baseball majeur, les équipes ont toujours peur de se faire actionner en cours. C'est quand même aux États-Unis là, pour 29 des 30 équipes. Mais
oui.
On doit spécialement, le plus près que tu es du terrain, je parle pas d'un exemple, un coup de circuit là, à 400 pieds, puis que tu es dans l'une, puis tu reçois la balle. C'est pas comme recevoir une flèche par-dessus l'abri des joueurs au premier ou au troisième but.
Exact.
T'es vraiment prêt.
Mm-hmm.
Et si les gens regardent la façon que ces gros frappeurs-là frappent la balle ne sort pas du bâton à 62 000 à l'heure.
Non.
C'est plus souvent qu'autrement en haut de 100 000 à l'heure ou des 95 et plus. Cette balle-là, là, t'as pas le temps de réagir, même si tu regardes. Puis moi, je suis surpris, Pierre, que ça arrive pas plus souvent. Il va falloir trouver une façon que, spécialement les gens qui sont plus près de l'action, qu'ils soient mieux protégés.
Ouais.
Les équipes sont tous d'accord. J'ai lu là-dessus ce matin, puis les équipes, c'était Boston, Toronto, les Phillies, bravo baseball majeur, forcez-nous à le faire. Mais là, il faut le faire. Mais là, ça prend des ingénieurs, ça prend des gens.
Exact.
Le fan experience qu'on appelle, s'assurer que c'est pas dans le chemin des partisans qui payent les billets en bas de 150 $,
ouais.
S'assurer que ces gens-là s'amusent aussi.
Parce que c'est ça,
il faut avoir des balles dans les estrades, hein?
Oh oui, puis la ligne, est, comme tu le dis, est difficile à délimiter parce que tu dis, est-ce qu'on veut protéger les spectateurs ou bien les spectateurs veulent mieux voir le jeu? Tu sais, tu payes cher pour être en bas, tu veux voir comme il faut, tu veux avoir un accès plus direct,
les
tu veux
gens
pas un obstacle.
Derrière le marbre. Ouais, mais les gens qui sont derrière le marbre, ils voient bien la partie. Moi,
puis on l'a fait au hockey aussi.
Professionnel. Exactement, au hockey, ça a pris malheureusement un décès. C'est pour ça qu'on veut voir, là, puis tu mets des filets, puis tu es en haut, le filet est devant toi, tu t'habitues. Quand tu regardes une partie, puis tu vois Aroldis Chapman lancer 99 000 à l'heure, tu es en arrière du marbre, là, puis il y a une fausse balle qui vient vers toi, ben en tout cas, tu es content d'être protégé. Tu vois quand même. Sinon, achète-toi des billets dans les estrades populaires, en haut, au deuxième balcon où les fausses balles sont, ont une trajectoire de haut vers le bas et non une trajectoire en flèche.
Ouais.
Et moi, je pense que la sécurité vaut beaucoup plus
ouais.
parce qu'il y a eu trop d'accidents de la sorte. Ben,
ouais. C'est étonnant qu'on ait pas fait davantage dans des stades, surtout aux États-Unis, et puis l'ensemble des stades, évidemment, sauf à Toronto, c'est tout aux États-Unis, exact. Parce qu'on a la gâchette assez facile côté poursuite aux États-Unis. Hein?
Hey Pierre, moi, je vais souvent dans les terrains des ligues mineures qui sont plus petits, puis il y en a qui sont plus vieux. Il y a beaucoup moins de protection. Puis là, mm-hmm. t'as beaucoup, tu sais, les billets sont moins chers. T'as beaucoup de jeunes familles, des jeunes de 5-6 ans qui se promènent pendant les parties parce que dans le champ gauche, il y a toutes sortes de petits jeux pour qu'ils jouent. Puis c'est pas un stade des majeurs, là. T'es près de l'action. Puis ces jeunes-là de 20, 21, 22 ans dans le Calais-Bas, ils frappent la balle. Puis le parent, lui, prend sa bière. Puis le jeune, il joue dans le parc à côté. Mais la partie, elle se déroule, là. Ça peut arriver n'importe quand où les jeunes, ils descendent près de l'action. Le gars, le petit jeune, il a 7-8 ans. Puis, en tout cas, je te le dis, il doit avoir un bon Dieu du baseball parce que je suis sûr que ça arrive pas plus souvent.
Oui, effectivement. Alex, avant de passer aux séries éliminatoires qui sont en cours, juste une petite affaire puis il y en a plusieurs de mes amis qui suivent le baseball qui trouvent ça un peu ridicule des fois. L'habitude pour les joueurs et instructeurs qui se réunissent au monticule ou même ailleurs, puis on le voit au football aussi, qui se cachent la bouche avec leurs gants ou leurs casquettes pour être sûr qu'on ne lise pas sur les lèvres, est-ce que c'est exagéré? Y a-tu des spécialistes de lecture sur les lèvres dans les autres équipes pour essayer de détecter ce qu'on dit?
Moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est que chaque équipe, on a eu les Red Sox cette année qui se sont fait taper ses doigts, on a eu les affaires de Apple, les montres à Apple. Tout le monde a un spécialiste vidéo dans la chambre. Tout le monde regarde les parties. Tout le monde tente d'avoir un avantage sur les autres. Si l'entraîneur des lanceurs est en train de jaser, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un de l'équipe adverse qui est en train de le regarder. Tu es en train de parler, on va l'attaquer avec une balle courbe, on travaille ça avec notre rapide à l'intérieur. Ils veulent s'assurer que personne ne voit rien. Avant, je te le jure.
Avant, ça va jusque-là?
D'après moi, oui, c'est rendu là. Pourquoi que... Tu sais, quand John Farrell, une des raisons qu'il a perdu son emploi, là, Dombrowski a parlé qu'il a fait mal paraître l'organisation qui disait, lui, moi, je ne suis pas au courant qu'on tentait de voler des signaux. Tu penses-tu que l'employé faisait ça de lui-même pour donner ça aux joueurs? Puis là, l'équipe paraît mal là-dedans. Avant, on voyait souvent le receveur seulement. On veut s'assurer, on ne veut pas donner aucun avantage. Dans les séries spécialement, chaque tir, chaque moment est tellement intense parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les chambres adverses, puis peut-être c'est un coureur qui est au deuxième but, puis qui regarde bien innocemment de ce côté-là, puis il entend quelque chose, il peut le relayer via un signe à ses joueurs. Il y a trop d'intensité, il y a trop d'enjeux, spécialement à ce temps-ci de l'année. Oui, c'est fatigant, je comprends tes amis, mais c'est rendu de même. Tu sais, on veut s'assurer de donner aucune information à l'adversaire.
OK. Ben, je pensais pas que c'était juste de la parano. En fait, je pensais que c'était juste de la parano. Je pensais pas que ça pouvait avoir une incidence.
D'après moi, il y a sûrement une petite portion là-dedans. C'est une des raisons pourquoi les parties des séries rarement sont en bas de 3h30 parce que chaque tir, chaque moment, combien de fois que l'on voit les receveurs aller parler pour s'assurer qu'il est sur la même longueur d'onde que son lanceur.
Ouais. OK. Parlons des séries éliminatoires. D'abord, dans la Ligue américaine, parce qu'il y a déjà deux matchs qui sont joués, les deux remportés par les Astros de Houston sur les Yankees de New York, et les deux par des bas pointages qu'on n'avait pas vu beaucoup au début des séries. Es-tu surpris de l'allure de cette série-là, avec des bas pointages comme
non,
ça?
Non, à date, c'est vraiment deux très bonnes parties, mais la grande différence, la raison pourquoi c'est 2-0 Houston et pas 1-1, exécution. On l'a vu avec le point marqué en 9e hier des Astros. Ça aurait dû être un retrait au marbre. Oui, les Astros sont agressifs. Ouais. Oui, l'entraîneur au troisième but a envoyé Altuve lorsque le double a été fait. Mais de Aaron Judge à Didi Gregorius à Gary Sanchez, on n'a pas effectué les relais de la bonne façon. Tandis
c'était
que
pas
les Astros,
droite.
Eux, c'est ça. Ben, on n'était pas en ligne droite avec le coureur au premier but. Judge a manqué le premier relayeur lorsque Gregorius a eu la balle. Il y avait Correa, lui, qui s'en allait vers le deuxième but, qui a effectué sa glissade et se relevait en même temps. Mm-hmm. Gregorius, qui a un très bon bras, n'a pas lancé son meilleur tir, mais Sanchez a pris le blanc. Il dit, j'aurais dû attraper cette balle parce que Altuve aurait été mort pour 3-4 pieds. Là.
Ouais.
Il n'y aurait eu aucun contest. On serait en 10e manche. Ouais. Mais l'autre affaire, quand tu as Justin Verlander qui lance une partie qu'on va se souvenir pour les 100 prochaines années, 9 manches, partie complète, c'est la raison pour que les Astros sont allés le chercher. Quelle acquisition, puis exécution à date. C'est pour ça que c'est 2-0. Mais je suis linké, je m'en retourne à la maison. On a perdu par un point. On est dedans. On n'a pas encore frappé. On a vu leurs deux meilleurs lanceurs. Là, ça serait le temps. Je pense qu'ils sont capables de revenir dans cette série-là. Puis au moins, retourner cette série à Houston avec les match-ups de lanceurs qui s'en viennent.
Parce que ce sont les deux équipes dans la Ligue américaine qui ont marqué le plus de points dans la saison régulière, avec des moyennes de 5,5 points par match pour les Astros, 5,3 pour les Yankees. Deux matchs de 2-1, on n'aurait pas dû s'attendre à ça, là.
Non, mais quand tu as des, tu sais, du côté des Yankees, ils ont affronté Dallas Keuchel et Justin Verlander. Demandez à Sanchez puis Judge s'ils en ont fait des cauchemars, parce que je pense à deux, sont 4 en 45 depuis le début des séries. Judge, à cause de son immense physique, beaucoup de tirs, je trouve, on peut donner d'excuses, mais il y a beaucoup de tirs bas dans la zone, même à l'extérieur, qui sont appelés des prises, des souvent 0-2 dans le compte. Puis là, il a comme une tendance, lui, de vouloir baisser son épaule arrière, puis il tourne son épaule avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Glissante à l'extérieur, et on s'élance dans le vide avec ça, puis tu sais, t'affrontes pas souvent le cinquième partant, puis le lanceur de mop-up qu'on appelle en relève, là. Là, t'affrontes Verlander en pleine possession de ses moyens, t'affrontes un Dallas Keuchel, deux lanceurs complètement différents, deux soirs de suite, un qui domine via la location de ses tirs, le mouvement, le gaucher, tandis que l'autre, c'est complètement la puissance et, écoute, un vétéran là qui est en pleine possession de ses moyens.
Jusqu'à quel point c'est un exploit ce qu'a fait Verlander hier? Un match complet, d'abord, dans la Ligue américaine, c'est de plus en plus rare. Puis la façon dont il l'a fait, c'était génial. Est-ce que le match qu'il a lancé, là?
Oui, en 2017. Les gérants gèrent les enclos. L'année passée, les Indiens de Cleveland, avec Terry Francona, t'as Andrew Miller qui arrive en quatrième manche, partant, t'as... La liste est très, très courte, hein, la mèche des gérants. Mais pourquoi que tu es allé chercher Verlander? C'est pour ça. Parce que l'enclos de relève des Astros, c'est pas nécessairement l'enclos qui était wow. Tu sais, oui, t'as Kenny Jazz qui était un bon releveur numéro un qui a fait le travail. Mais ce que Verlander a fait, c'est qu'il a reposé tout le monde. Et moi, je me rappelle en 2003, lorsque j'étais avec les Phillies, on avait un dénommé Josh Beckett qui a battu les Yankees deux fois en série mondiale. Puis la game numéro 6, là, Jack McKean n'a pas regardé trop longtemps dans l'enclos. Il voyait Ugit Urbina au bout du rouleau qui avait eu de la misère dans ces séries-là. Ben, Beckett m'a la prendre la balle pendant les 9 manches et a lancé 9 manches dans notre partie décisive qu'on a gagnée au Yankee Stadium. Ouais. Et tu as vu un Verlander jamais été dans le jeu en contrôle.
Alex, il faudrait que tu te déplaces un petit peu. Ça coupe de temps en temps. On parle de Verlander, mais est-ce que José Altuve actuellement est le meilleur joueur du baseball?
Ben écoute, c'est définitivement un des joueurs le plus complet, défensivement, offensivement, il court, puissance, frappe des balles en lieu sûr. Il est comme la bougie d'allumage de cette équipe-là. Il est, tu regardes le petit diminutif 5 pieds 6 qui fait son travail à tous les jours. Il est toujours dans le milieu de l'action, que ce soit défensivement ou offensivement. Moi, j'adore ça parce que t'as Judge un bord à 6 pieds 7, t'as Altuve l'autre bord. Les deux sont des MVP de leurs équipes. Puis à date, c'est un gars qui est vraiment au top de son art. Puis ce que j'aime, c'est qu'il peut tout faire. Il a de la puissance. Il peut courir. Il fait les jeux. Alors, tu peux pas dire, il est petit. Ceux qui se rappellent de l'ancien nom des Freddy Patek de ce monde qui ont joué pour les Royals de Kansas City dans les années 70, tu sais, ça volait pas beaucoup de buts. Ça frappait pas beaucoup de circuits, mais ça jouait au baseball. C'était des bons joueurs de balle. Altuve, il est bourré de talent. Et ça, tu peux voir ça. Puis quand tu es un jeune qui regarde un sport, tu veux faire du sport. Ah, je suis pas trop gros, je suis pas trop grand. Je peux pas jouer au football. Là, le basket, ils sont tous trop grands pour moi. Je joue au baseball parce que si tu as du talent, si tu es capable de courir vite, tu as un bon bras. Puis ce que j'aime d'Altuve, tu sais, il est compact à la balle. Il n'y a pas des longs bras. Il ne s'élance pas dans le vide souvent. Puis avec le temps, il a développé un peu de force puis un peu de puissance. Je pense qu'il a frappé 27 circuits cette année. C'est vraiment. Mais Correa, Altuve, Springer, là, c'est ça le développement du baseball. Quand tu finis dans les bas-fonds, souvent, tu pêches des gars comme Correa et Altuve. Et les Astros ont toujours eu du succès dans les académies au Venezuela et ont développé des joueurs de cette trempe-là. Ils ont développé Altuve. Le repêchage leur a donné l'opportunité d'avoir Correa et Springer. Et après ça, tu vas chercher un gars comme Verlander. Ben, c'est ça que ça fait des équipes championnes.
Dans l'autre série, Chicago, Los Angeles, la série est encore jeune. Les Dodgers ont gagné 5-2 hier. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent?
Ben, écoute, les Dodgers qui ont mal fini l'année, que tout le monde est inquiet, ils ont joué 4 parties assez, ce que j'appelle, propres dans les séries d'après-saison, 4 victoires. Mais ils n'ont même pas eu besoin d'un Kershaw en pleine possession de ses moyens. Il a bien lancé. 5 manches, mais je pense qu'il a atteint déjà 90 tirs. Et la relève, Dave Roberts a vraiment bien utilisé sa relève. Des gars comme Kenta Maeda, Brandon Morrow, qui a été un Blue Jays dans le temps, qui était un jeune prospect, qui a toujours été blessé, connaît les meilleurs moments de sa carrière, mais en relève. Puis Kenley Jansen, ce qui se dessine, c'est qu'aujourd'hui, Hill et Lester, deux vétérans de la gauche, je pense que les Cubs ne veulent pas retourner 2-0 chez eux.
Non, hein?
Puis les Cubs ont eu une série difficile contre les Nationals. L'enclos, si je me trompe pas, a donné quelque chose comme 16 points en 20 manches depuis le début des séries. Et là, Joe Madden ne sait pas qui utiliser. Il dit, il faut qu'on mette notre enclos en ordre. Il sait pas. Mm-hmm. Puis, évidemment, hier, c'est la relève, les 5 manches des Dodgers qui ont fait le travail. Ils ont Rich Hill qui s'en vient. Moi, je pense que les Dodgers sont positionnés pour un petit peu donner la leçon aux Cubs cette année. Eux, que les Cubs, les ont éliminés l'année passée en 6 parties. Et Rich Hill, le lanceur d'aujourd'hui, était en attente pour lancer la 7e partie. Il dit, j'ai hâte d'affronter les Cubs dans cette partie, même si c'est juste la 2e de la série. Puis les Cubs, là, des fois, trouvent toujours le moyen de gagner. Puis si les Cubs veulent aller chercher la victoire aujourd'hui, ils sont maganés un petit peu, la relève n'arrache, puis ils retournent chez eux 1-1, ben ils vont être en bonne position. Mais si les Dodgers vont la chercher aujourd'hui, je pense que c'est une série qui pourrait être de courte durée.
Excellent, on suit ça de près, Alex. Merci beaucoup, et puis on se reparle la semaine prochaine.
Merci, Pierre.
Salut, Alex Agostino qui nous parle de baseball. 19h38 ce soir, premier lancé du match numéro 2 entre les Cubs et les Dodgers à Los Angeles. C'est le seul match au programme dans le baseball majeur. Aujourd'hui, après la pause, on parle avec Stéphane Leroux de la fin de semaine du Rocket et également une petite mise à jour de ce qui se passe depuis le début de la saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.